Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Antoine. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci.
Je t'ai invité dans mon podcast car tu as un parcours très inspirant, qui n'a pas toujours été simple, mais tu n'as jamais abandonné, même si les institutions ne croyaient pas en ton projet. C'est ce que tu m'avais un peu expliqué.
Oui, exactement. Ouais. Ça a été difficile au début de sortir le projet, de l'idée au concret.
Et comment tu as vécu tous ces noms ?
Alors je pense que c'est mon parcours d'entrepreneur, il faut savoir rebondir. Et c'est là-dessus qu'un entrepreneur va se démarquer, c'est qu'il ne va pas forcément accepter un nom, il va réussir à rebondir. Alors des fois il y a des noms francs parce que c'est vraiment pas possible, il faut le faire différemment. Mais le but c'est de toujours réussir à avancer.
Est-ce que tu avais des deadlines en disant si j'arrive pas, j'arrête ?
Alors non, j'avais pas de deadline précise. Alors quand j'ai monté le projet, ce qui est important c'est que on n'a jamais 100% de noms. C'est-à-dire que le but c'est sur 10 demandes, même si on a 9 noms et un oui, et que le oui permet d'avancer sur 10% du projet, ben on sait qu'il faut continuer à faire d'autres demandes pour faire continuer à avancer le projet. On peut prendre l'exemple des banques. Quand j'ai eu l'idée de ce projet au début, ben j'ai fait un tour des banques. Il existe plusieurs banques en France. Et bien sûr, 5-6 banques, il y en a 4 qui m'ont dit non et 2 qui m'ont dit oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'après un an et demi d'existence maintenant, les banques qui m'avaient dit non au début sont revenues me voir pour nous financer. Et les banques qui m'avaient dit oui au début ont dit bah, « nous, on est peut-être allé un peu trop loin, maintenant on veut freiner ». Donc un non, déjà, il n'est jamais forcément définitif dans le temps. Et savoir que voilà, une banque nous dit non, il y en aura peut-être d'autres qu'on va réussir à convaincre.
Et ta famille, elle t'a soutenu dans ton parcours quand ça allait pas, tu pouvais compter sur eux ?
Alors pas vraiment, dans le sens où encore une fois, je pense que c'est un retour d'entrepreneur. Il faut savoir passer au-dessus des gens qui nous disent non. Alors des fois, alors si je prends l'exemple de ma famille, si elle, au début, elle m'a pas forcément encouragé, c'est pas forcément qu'elle croyait pas en moi, c'est peut-être simplement pour me protéger. La vie d'entrepreneur, elle est compliquée, elle est difficile, elle est risquée. Je venais d'avoir une petite fille. Ma mère, elle ne m'a pas forcément soutenu dans mon projet, pas parce qu'elle ne croyait pas en moi, mais simplement pour me dire « Antoine, c'est pas le moment de prendre des risques. Tu viens d'être papa, il faut peut-être justement t'asseoir dans une position confortable pour être un bon père de famille. » Voilà. C'est vrai que quand on est entrepreneur, il faut réussir à écouter tout le monde, prendre les avis positifs et négatifs de tout le monde, mais il ne faut pas les prendre pour acquis. Le nombre de personnes qui m'ont dit que mon projet n'allait pas marcher, et on a eu le premier bilan positif à plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, il y a eu beaucoup de remarques négatives qui m'ont permis d'avancer.
Donc tu ne l'as pas pris pour toi ?
Évidemment, on le prend toujours un peu pour soi. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Il y a toujours cette partie où on le prend pour soi. Mais toujours dans cette optique de se dire il faut continuer à réussir à avancer. Et évidemment, il y a des moments difficiles. Et il y en aura toujours.
Il y a quoi comme nom qui t'a permis d'avancer ?
Comme nom qui m'ont permis d'avancer ? Alors, bonne question. Je dirais qu'il y en a eu, il y en a eu plusieurs. Déjà, il y a eu les noms des investisseurs qui m'ont forcé à avancer différemment, en disant bah, « Tiens, on ne va peut-être pas partir sur une levée de fonds de suite, mais plus sur du bancaire, parce que je n'ai pas réussi tout de suite à convaincre des investisseurs. » Mon histoire d'entrepreneur, elle débute avec la perte d'un emploi, où j'étais directeur marketing d'un groupe franco-allemand qui s'appelle Abopress. Et l'actionnaire allemand nous a demandé de disloquer le groupe, de revendre les différentes marques. Donc c'est ce qu'on a fait. Elle m'a demandé finalement d'arrêter mes projets en cours. Donc c'est une forme de non. Pour revendre les différentes marques du groupe à d'autres sociétés, mon poste n'avait plus lieu d'exister. Donc ça, c'est un non qui m'a permis de rebondir et de commencer ma carrière d'entrepreneur.
Et comment tu as eu l'idée de ta enfin, c'est une start-up actuellement.
Oui, alors comment j'ai eu l'idée de la start-up Trouver mon architecte Alors il y a eu un mix de plusieurs choses. Déjà ça a été une rencontre dans mon garage avec un architecte, et puis quand on s'est mis à échanger sur plan perso, savoir tiens toi qu'est-ce que tu fais, et que je lui ai parlé de mon métier dans le marketing digital, j'ai très vite compris qu'il ne comprenait rien. Et du coup, je me suis dit, tiens, si un architecte comprend rien en marketing digital, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se passer du digital. Et en fouillant dans mes outils, je me suis aperçu que les statistiques étaient plutôt favorables au marketing digital dans ce métier, qu'il y avait 50 000 personnes chaque mois qui recherchaient un architecte sur Google, et de l'autre côté, 30 000 architectes en France qui n'étaient pas forcément familiers du digital. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer une plateforme qui permettrait aux internautes qui recherchent un architecte de trouver l'architecte qui correspond à leur projet. De là est né le projet Trouver mon architecte. Et ensuite, on a créé exactement le même produit pour les photographes. Alors là, c'est lié à une histoire un peu plus personnelle où quand j'ai eu ma petite fille, je me suis mis à chercher un photographe sur Strasbourg pour des photos naissances. Et c'était compliqué. Je suis passé par Google, j'ai tapé photographe Strasbourg, je suis arrivé sur différents sites. Alors déjà, les sites qui arrivent en premier, c'est souvent les photographes qui ont le plus de budget. Donc, ils sont pas forcément qui ont plus de budget, donc ils sont pas forcément attractifs d'un point de vue prix. Quand je les ai contactés un par un, tous ne faisaient pas des photos naissances. Ceux qui faisaient des photos naissances, je leur ai demandé des exemples, ils m'ont envoyé leur book, tous ne correspondaient pas à mon envie graphique, artistique. Donc du coup, la démarche a été assez longue pour trouver un photographe. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire le même produit que les architectes, mais pour les photographes, où en deux clics, on peut filtrer par localité et ensuite par prestation et avoir des exemples de photos pour contacter très rapidement un photographe.
J'avoue que les photographes, ils sont beaucoup sur Instagram et ils ne font pas de site en fait. Je sais pas si c'est une bonne stratégie ou une mauvaise, mais c'est sûr qu'avoir un outil en plus pour avoir des clients, c'est plutôt sympa.
Exactement, alors je dirais pas non plus que c'est très bien d'être sur Instagram, mais il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc. Il y a des gens, j'en suis persuadé, qui sont très performants et qui vont vivre qu'avec Instagram. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir quelques contrats liés à Instagram et qui ont besoin d'une source d'apporteurs d'affaires supplémentaires. Et c'est là où on va intervenir.
Et donc ça fait quelques mois que tu as lancé le... Trouver mon photographe.
Alors ça va faire un an. Trouver mon photographe va avoir un an au mois de mars. On l'a lancé juste avant le Covid de l'année dernière. Et aujourd'hui, on a déjà plus de 200 photographes actifs en France sur le site et on va développer notre produit à l'international très prochainement en Espagne, en Italie et en Angleterre.
Comme tu as fait avec Trouver mon architecte.
Exactement, comme on a fait avec Trouver mon architecte. Si on peut reprendre un peu mon parcours, c'était une des volontés. Quand j'ai imaginé ce projet, je voulais avant tout être entrepreneur, lancer un projet, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Par contre, je voulais que ça respecte mon fil rouge, donc la génération de leads, fil rouge de mon parcours professionnel. Et ensuite, deux autres critères très importants, que ça soit une start-up qui puisse être sur un marché où elle puisse bénéficier d'une croissance exponentielle, que ce soit sur un marché suffisamment important. Et deuxième critère, je ne voulais pas une PME axée sur un marché français. Je voulais vraiment une start-up qui parte très rapidement sur l'international et aujourd'hui, en bientôt 2 ans d'existence, on est présent sur 12 pays.
Et pourquoi tu commences par l'Espagne, l'Italie ?
Alors, on a fait les pays limitrophes à la France, donc l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie. C'est aussi dû aux moyens de paiement, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec le prélèvement SEPA. Et le prélèvement SEPA, c'est les pays européens, donc on a commencé à attaquer les marchés proches de nous.
Et avec le Brexit, ça va changer quelque chose ?
Avec le Brexit, oui, ça nous a un peu chamboulé. On a dû s'organiser différemment, où on a dû changer de moyens de prélèvement. Donc maintenant, on passe par une solution anglaise pour prélever les architectes et photographes anglais.
Et tu as envie de dire quoi à tous ces gens qui n'ont pas cru en toi, que ce soit même les incubateurs ? Je pense que tu es allé vers eux aussi.
Alors en local, oui. En local, il y a eu beaucoup de noms. Il y a eu la BPI qui m'ont dit non sur tout ce qui était prêt à l'innovation. Il y a eu pas mal de banques. Une fois de plus, je vais revenir, c'est que le non, il n'est pas définitif. Bien souvent, c'est des gens que j'ai relancés. Et ces gens que j'ai relancés, certains sont revenus vers moi favorablement, notamment les banques. Je pense à la BNP qui m'a dit non à tout début du projet, qui ne croyait pas en ce projet. Et qui est une de nos banques qui nous finance le plus aujourd'hui. Donc le non, il n'est pas définitif. On travaille même avec la BPI à changer ses noms en oui dans le temps. Le plus important, c'est qu'il faut toujours savoir rebondir. Et si quelqu'un nous dit non, il y en aura peut-être d'autres qui nous diront oui. Il faut savoir frapper à d'autres portes et trouver surtout cette énergie pour frapper à d'autres portes.
Ouais, de ne pas être négatif et pas de voir le noir partout et se dire oh, c'est pas grave, j'avance, j'y crois.
Exactement, il y a cette fameuse phrase « soit je gagne, soit j'apprends ». À savoir qu'un échec, bah, ça nous permet d'apprendre. Il faut réussir à le comprendre, à l'accepter. Surtout pas rejeter la faute sur les autres. Si on a un échec, c'est avant tout notre faute. Et se dire qu'il y a toujours une solution. Ça, c'est important. C'est un tip qui m'aide à me remonter quand je suis un peu bas. C'est-à-dire qu'il y a toujours une solution. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on sera prêt à l'accepter et à mettre tout en œuvre pour arriver à trouver cette solution.
Et au début de ta boîte, tu as fait quoi? Tu as commencé toi-même? Tu as fait toi-même le site ou tu avais quand même de l'argent pour payer quelqu'un? Déjà embauché des premières personnes? Ou tu as appelé toi les premiers architectes?
Alors, j'ai toujours eu déjà un parcours d'entrepreneur. Même dans mes études, j'ai eu la chance de faire le premier master en marketing digital en France, ce qui m'a ouvert pas mal de portes. Et même pendant mes études, j'avais ouvert ma petite activité de consultant en marketing digital. Et ensuite, après mon master, j'ai fait un tour du monde. Et quand je suis revenu, j'ai fondé ma première société où j'étais, à l'époque, j'avais pas d'argent, donc j'étais actionnaire minoritaire de ma société. C'est une société que j'ai revendue un an après, donc j'ai toujours eu un peu ce fil d'entrepreneur. Ensuite, je suis arrivé à Strasbourg en tant que directeur marketing, mais avec une vraie mission d'intrapreneur où je montais des activités pour cet actionnaire qui est allemande. Et quand on a revendu les différentes marques du groupe, là, j'ai lancé le projet Trouver mon architecte. Donc, trouver mon architecte, au début, j'avais la chance, bah, j'avais déjà des revenus confortables liés à mes précédentes activités. J'avais déjà une petite expérience d'entrepreneur. Et ensuite, j'ai fait le tour des banques, hein, pour avoir un peu d'argent pour l'amorçage. Mais au début, oui, j'ai appelé les premiers architectes pour les inscrire, pour leur présenter le site, pour leur présenter la plateforme. Ça m'a permis de me convaincre que le produit et l'idée fonctionnaient. Et ensuite, j'ai réussi à du coup motiver des gens qui m'ont rejoint dans l'aventure et qui ont cru au projet qui fonctionnait et ont poussé simplement le produit pour arriver aux chiffres qu'on a aujourd'hui.
J'ai une théorie, je ne sais pas si elle est vraie ou elle est fausse, mais je pense que les gens qui arrivent à faire des gros chiffres comme ça en un an, ça ne vient pas de nulle part. C'est que derrière, ils ont quand même un background, ils ont comme toi... Ben, entrepris des choses en amont, appris, recommencé, t'as un meilleur mindset. Parce que quand on se lance dans la première boîte, c'est dur, on en fait des milliards d'erreurs. Alors que toi, t'es venu déjà avec toute ton expérience.
Donc, je suis déjà venu avec toutes mes erreurs.
Oui,
exactement.
Voilà. Je me dis, donc quand moi je vais me dire, ah, je comprends pas, il réussit trop vite, trop bien, comment il fait des chiffres aussi grands, et ben je me dis, ouais, mais si je regarde son CV, je pense que derrière, il a fait beaucoup de choses, il s'est planté, il a recommencé. Enfin, tu comprends peut-être mieux l'aspect client, comment leur parler, comment parler à des banques, alors que si on est tout nouveau, un bébé entrepreneur, c'est dur de savoir bien parler aux banques et bien parler aux clients, bien monter un produit, faire un bon pricing. Je pense que tout ça, tu les avais en toi, et ce qui t'a permis de quasiment faire combien? 1 million en première année? 800 000?
Quasiment 1 million la première année de chiffre d'affaires, exactement. Oui, tu as raison. Je pense qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Et quand j'ai monté cette société, je suis arrivé avec toute mon expérience et du coup tous mes échecs pour ne pas reproduire simplement des erreurs. Et ça, c'était une force. Dans les premiers projets que j'ai montés, il y en a certains qui n'ont pas fonctionné et c'était dur. Et des fois, c'est soit par manque de financement, soit c'est parce qu'il y a une concurrence qui a été meilleure. Il faut savoir l'accepter. Mais oui, je suis arrivé avec tous mes échecs et ça m'a permis de rebondir et d'avoir un produit très abouti dès le début.
Quand il y a une nouvelle personne qui va se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ne connaît rien, je pense que ses chances de réussite sont beaucoup plus faibles que toi qui viens avec ton, voilà, toute ton expérience positive aussi, en 5 ans, 10 ans, et t'arrives, et à mes yeux, c'est normal que la première année, tu fasses quasiment 1 million.
Alors, normal, je sais pas. En tout cas, ça a été beaucoup de travail pour arriver là, et ça n'empêche pas que même après maintenant 10 ans d'expérience dans le marketing digital, une société rentable dès la première année qui avoisine le million d'euros de chiffre d'affaires, ça n'empêche pas d'avoir une vie d'entrepreneur, c'est-à-dire avec ses risques, ses peurs, ses nuits blanches, ses difficultés, une équipe donc de l'humain à gérer qui prend beaucoup aussi d'énergie. Le facteur humain est très important pour moi, c'est là où j'ai un peu on va dire, le plus de difficultés. C'est normal parce que c'est le plus complexe finalement. Et dans une start-up, c'est beaucoup d'humains. Et oui, ça n'empêche pas que même après toutes ces réussites, il y a encore de l'échec aujourd'hui. Il y a encore des choses qu'on lance qui ne fonctionnent pas. Le but, c'est de jamais de s'arrêter de tester, de développer de nouvelles choses.
Tu m'avais dit que tu faisais encore des nuits blanches ?
Oui, on parle de nuits blanches. Oui, évidemment, je pense que dans une vie, que ce soit sur le plan perso ou pro, on ne peut pas toujours être au vert. C'est impossible. C'est impossible d'être tout le temps au vert. Même si les voyants sont verts, on peut avoir peur pour l'avenir. Et c'est normal, il faut l'accepter. Évidemment, tout le monde a des fois des visions un peu noires, en disant « Tiens, qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que ça c'est bon ? Est-ce que là je suis dans le vrai ? Est-ce que là je suis dans le vrai maintenant mais ça va pas changer dans 2 mois ? Il faut savoir se remettre en question et c'est normal d'avoir peur. On voit de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, de gens influents qui disent bah voilà, je vais pas afficher uniquement mes réussites, uniquement ma belle facette, mais aussi mes échecs. On n'est pas toujours tout beau, tout propre. Des fois, il y a des moments où on peut être un peu plus noir, des moments où on peut avoir un peu plus peur. Il y a des passages comme ça et c'est normal, il faut savoir les accepter.
Est-ce que tu es transparent au niveau de ton équipe quand ça va pas, quand la boîte ça tourne bien, ça tourne mal ?
Donc oui, avec mes équipes, effectivement, je suis transparent. Je pense qu'il est important pour un manager de partager ses problématiques pour que son équipe puisse le comprendre. Sinon, on peut arriver à des situations qui peuvent être assez difficiles en management, avec des gens qui vont avoir des pensées peut-être ultra négatives ou qui vont venir vous en rajouter une couche, simplement parce qu'elles ne vont pas avoir conscience de vos problématiques ou elles ne vont pas comprendre de dire « Tiens, pourquoi il fait ça ?» parce qu'elles ne vont pas avoir conscience de nos problématiques. Et aussi, c'est important pour un chef d'entreprise de partager ses problématiques avec son équipe, dans le sens où des fois, la solution, on ne va pas l'avoir, et c'est peut-être quelqu'un de son équipe qui va nous l'apporter. Donc, il ne faut pas hésiter à partager un peu ses difficultés. Voilà. Après, il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus et broyer du noir et rendre toute son équipe noire. Ce n'est pas le but, mais la solution, on peut la trouver à plusieurs.
Oui, juste dire, ce mois-ci... Ça va, mais on peut faire mieux, enfin être juste transparent sur la vie de l'entreprise.
Exactement, et sur les résultats d'une personne. C'est aussi quelque chose que j'ai mis en place où on est transparent sur les résultats de chacun. Et ça permet à une personne qui a des bons résultats de lui dire qu'elle fait des choses bien, et une personne qui a des mauvais résultats de lui dire « Écoute, là ça va pas, il faut que tu réagisses sans que la personne se braque et sans que ça devienne un leader négatif. »
Donc ça veut dire que tu t'adaptes quand même à chaque personne quand tu leur dis les choses, tu essaies de faire en fonction de leur personnalité ou...
Alors bien sûr, il faut toujours essayer de s'adapter en fonction de chaque personne. Après, c'est pas toujours évident pas tout le monde a la même sensibilité à la remarque. Donc il faut essayer de s'adapter. Mais la transparence, en tout cas, chez Trouver mon architecte, elle est importante.
Et... je pense que ça a été difficile pour toi l'année 2020, enfin le premier confinement.
Oui, le premier confinement, je pense, je suis passé par des, comme beaucoup d'entrepreneurs, des périodes de stress importantes. On peut parler, pour moi, ça a été un moment difficile. En mars 2020, la société n'a plus de trésorerie, les ventes chutent. Et par contre, les connexions sur le site explosent parce que tout le monde se met à chercher un architecte en ligne, le bouche-à-oreille ne fonctionne plus. Par contre, la société n'a plus de trésorerie et on a du mal, j'ai du mal à remotiver les équipes en disant c'est le moment de convaincre des architectes parce que notre service est plus utile que jamais parce que le bouche-à-oreille ne peut plus fonctionner, donc tout le monde va chercher un architecte en ligne. Plus de trésorerie, les PGE qui mettent du temps à arriver, des premiers refus, on parle de noms qui m'ont servi à avancer, premier refus des banques en nous disant non, on ne vous finance pas de PGE au début, sans raison particulière. Et du coup, oui, alors j'ai dû aller voir la banque en mon nom, en disant tiens, faire un prêt au nom de Antoine Jouot et rebasculer cet argent sur la société pour qu'on puisse continuer à avancer. Les PGE se sont débloqués dans les 4 mois suivants et on est retourné à l'équilibre 4 mois après cette crise du mois de mars 2020. Donc oui, ça a été un passage difficile à surmonter. Mais en termes de chiffre d'affaires, on a très vite rebondi Et ça a été des mois assez positifs par la suite, parce que notre service, une fois de plus, a été encore plus nécessaire. On pouvait uniquement contacter les architectes que via le digital.
Ça veut dire que tu as fait un prêt pour payer tes équipes ?
Exactement. Voilà, un prêt au nom de Antoine Jouot que j'ai investi directement dans la société pour pouvoir payer les gens, sinon on devait arrêter.
Tu te doutais qu'on allait avoir un confinement ? Enfin, que ça allait prendre cette ampleur, le Covid ? Est-ce que tu l'as senti arriver ou t'as juste été choqué comme tout le monde ?
Alors, non, je pense comme tout le monde, on ne l'a pas senti arriver. Moi, j'avais cette précédente expérience où on parlait de grippe H1N1, où tout le monde avait eu peur et finalement, il ne s'était rien passé. Je pensais sincèrement que ça allait prendre cette tournure. Finalement, on a été confinés. Et une fois de plus, ce qui a été le plus dur dans le confinement, ça n'a pas été... finalement, nous, notre activité, elle ne s'est pas arrêtée. Ce qui a été le plus dur dans le confinement, finalement, ça a été l'humain. Réussir à garder tout le monde motivé et à essayer que tout le monde rame encore dans le même sens pour faire avancer le projet. Et ça a été le plus compliqué, finalement, pour nous. Voilà, à distance, de réussir à garder tout le monde positif dans une ambiance très négative.
Donc, vous avez continué à travailler. Pas de chômage technique.
Alors, on a utilisé un peu le chômage partiel parce qu'il était simplement plus difficile de contacter aussi les architectes par téléphone. Tout était un peu au ralenti, donc on a utilisé un peu le chômage partiel, ce qui nous a permis de rebondir aussi. Mais on a continué à garder une activité et en tout cas, on a gardé notre service de mise en relation 100% opérationnel et les demandes ont doublé entre le mois de février et le mois de mars parce que les gens étaient chez eux, sur leur ordinateur, et sont mis à contacter les architectes ou les photographes, parce qu'on venait de commencer les photographes.
Alors, est-ce que ça t'a permis d'avoir une plus grosse croissance ?
Une plus grosse croissance en termes de demandes, oui, bien sûr. Ensuite, en termes de vente auprès des architectes, donc de vente de notre service finalement auprès des architectes, il y a eu un ralentissement, mais ça ne nous a pas arrêté ça n'a pas arrêté notre croissance, ça a simplement diminué notre croissance.
Ah, ça a quand même diminué parce que je me dis, quand tu arrives en disant à des architectes on a plein de demandes, etc., peut-être que ça te permet d'avoir plus de contrats, les motiver un peu plus.
Alors, une fois de plus, ça a été de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a des commerciaux qui ont vraiment performé pendant ces mois de confinement. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont été au ralenti parce qu'on n'a peut-être pas su leur convaincre que notre produit était encore plus nécessaire. Ou qui n'ont pas réussi forcément à se motiver dans une atmosphère assez négative. Donc ça a été une fois de plus, ça a dépendu beaucoup de l'humain sur cette période.
On va dire que le mot humain, tu l'utilises beaucoup. Est-ce que c'est une de tes valeurs dans ta boîte ou pas ?
Oui, si on voit nos bureaux, quand on arrive chez Trouver mon architecte, on voit... On s'aperçoit très rapidement qu'on a mis le confort des salariés et l'humain, on a fait de l'humain une priorité. Et on fait de l'humain une priorité simplement parce que dans une start-up, les chiffres, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de marketing, ou l'ensemble des chiffres sont très liés à la personne qui a derrière ces chiffres. Donc si on ne prend pas en compte l'humain dans notre petite structure, eh bien on n'avance pas, on se plante.
Parce que vous, vous avez une stratégie de beaucoup de calls.
Exactement. On est une entreprise du digital, mais avec une équipe commerciale qui fonctionne beaucoup, encore par téléphone. Simplement parce qu'il ne faut pas oublier que pour convaincre le digital, ça ne suffit pas toujours. Il faut utiliser d'autres leviers, donc on utilise encore beaucoup le téléphone.
Oui, non, parce que justement, le call, c'est quelque chose de, quand même, qui fait peur à beaucoup de monde. Je pense que si tu ne les mets pas à l'aise, avec tous les noms et les refus qu'on peut avoir tous les jours, on peut se poser des questions sur nous, voilà, se renfermer, broyer du noir. Donc je pense que c'est pour ça aussi que l'humain est au cœur de ta start-up, enfin l'humain en tant que salarié.
Oui, l'humain en tant que salarié. Alors pour accentuer plus sur la partie commerciale, oui, on a des commerciaux qui tous les jours présentent notre produit par téléphone aux architectes et photographes. Et tous les jours, ils se prennent des refus. Donc c'est aussi important pour eux, les refus, il ne faut pas qu'ils le prennent personnellement, il faut qu'ils puissent continuer à avancer Et c'est presque des statistiques, c'est-à-dire que sur X refus, ils vont avoir X oui. Donc, ils savent aussi qu'ils ne vont pas avoir des oui oraux sans refus.
Et justement, aujourd'hui, tu gères combien d'entreprises? Tu en as 3?
Alors oui, aujourd'hui j'ai 3 sociétés. Donc il y a la société Trouver mon architecte qui a plusieurs produits. Dans ces produits, on va retrouver le site Trouver mon architecte, le site Trouver mon photographe et maintenant depuis peu le site Trouver mon décorateur. Alors ça, c'est la plus grande des sociétés. Ensuite, je vais avoir une société un peu passion, je dis toujours, c'est Weepli. C'est une entreprise de jouets en carton, mais suffisamment grand pour que les enfants puissent rentrer dedans. Et là, on va avoir un bateau pirate, un château, une maison. Donc ça, c'est mon entreprise en e-commerce passion. Et après, à côté de ça, j'ai aussi une société immobilière qui va gérer de la location à la fois de bureaux et d'appartements auprès du particulier.
Comment tu fais pour tout gérer? Tu délègues beaucoup?
Alors oui, évidemment, je ne sais pas si je délègue beaucoup. En tout cas, j'ai cette vision de rendre les gens autonomes. En parlant d'échecs, dans une de mes précédentes expériences où j'étais directeur marketing, je voulais être au cœur de tout, tout savoir, tout piloter. Ce qui a eu comme effet négatif derrière tout ça, c'est que les gens se désolidarisaient de leur mission et se disaient, c'est pas grave parce que si je fais une erreur, Antoine viendra corriger. Alors que si on a des gens compétents et qu'on arrive à les rendre autonomes et responsables sur leur mission et qu'ils savent qu'il n'y a personne pour corriger, ils vont être forcément plus performants parce qu'ils savent qu'il n'y a personne derrière qui va venir les corriger s'ils font une erreur. Donc ils vont faire plus attention à leur mission.
Et donc maintenant tu fais comment?
Et donc maintenant déjà j'arrive à rendre les gens autonomes. Et ensuite, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est avant tout une passion. Il y en a qui font du vélo, qui jouent au foot. Moi, ma passion, c'est de monter des entreprises, créer des projets.
Et après, tu montes des équipes pour qui gèrent?
Exactement. J'arrive à trouver des gens qui gèrent. À partir du moment où la société prend suffisamment d'ampleur, j'arrive à recruter des gens compétents et autonomes qui me permettent de démarrer de nouveaux projets.
C'est quel le premier? C'est trouver mon architecte ou c'est trouver mon décorateur? J'ai pas
compris. Mais si on prend trouver mon architecte, donc on a monté la société Trouver mon architecte, qui fait de la mise en relation entre particuliers professionnels et architectes.
Oui.
Donc c'est un site internet qui permet pour un internaute très rapidement de contacter soit par mail, soit par téléphone un architecte. De ce projet nous est venu les photographes. Donc on a lancé Trouver mon photographe. Et il y avait aussi beaucoup de décorateurs et d'architectes d'intérieur qui souhaitaient être référencés sur notre site internet oui. Trouver mon architecte. Et étant donné qu'on a une charte de partenariat avec l'Ordre des architectes, on est tenu de référencer sur notre site Trouver mon architecte uniquement des architectes diplômés et inscrits à l'Ordre. Donc on ne pouvait pas référencer d'autres métiers comme les décorateurs. Du coup, on s'est dit, on va créer une solution sur mesure qui s'appelle « Trouver mon décorateur et distinguer chacun de ses métiers », en fin de compte.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « architecte d'intérieur », mais ce n'est pas des architectes, c'est des décorateurs.
Alors, c'est un peu... Évidemment, c'est un peu ambigu et puis ça change parce qu'on parle beaucoup d'intérieur designer, donc la loi n'est pas la même dans tous les pays. En France, un architecte, c'est quelqu'un qui a un master en architecture et ensuite qui a fait une spécialisation d'un an supplémentaire et qui va ensuite payer sa redevance à l'Ordre des architectes. Ça lui permet d'être architecte et en fin de compte de pouvoir abattre des murs porteurs et de pouvoir signer des plans. Un architecte d'intérieur qui n'est pas architecte, il ne va pas pouvoir forcément abattre un mur porteur, il va pouvoir redesigner des espaces, choisir des matériaux pour l'intérieur, mais il ne va pas pouvoir être habilité à faire des rénovations de plus de 150 mètres carrés, et il ne va pas pouvoir travailler sur des murs porteurs ou signer des plans qui incluent des murs porteurs. Voilà comment on va faire la distinction.
D'accord, oui, parce que moi j'avais juste pour idée, c'est le diplôme d'architecte qu'il faut, et sinon c'est des décorateurs.
Exactement. Alors, un architecte la différence qu'on pourrait faire, c'est qu'un architecte d'intérieur va aussi redesigner, en plus de la décoration, peut aussi aménager des espaces ou segmenter des espaces. C'est-à-dire que si on lui donne une entreprise, un grand espace de 200 mètres carrés, il va vous dire, bah, tiens, là, on va faire un coin, espace de salle de réunion. Alors qu'un décorateur, lui, va vraiment plutôt jouer sur tout ce qui est couleur, matière. Mais un architecte d'intérieur peut aussi faire de la décoration. Comme un architecte peut aussi se dire, moi, je vais faire aussi de l'architecture d'intérieur.
Quel est ton plus grand défaut ?
Grand défaut, c'est à la fois une qualité et à la fois un défaut. Mais c'est quelque chose qui me freine, où tu me disais, tiens, Antoine, tu parles beaucoup de l'humain. Et c'est vrai que je peux avoir ce côté très autiste, où j'ai une idée et je change pas d'avis. C'est ce qui m'a permis d'avancer malgré les noms. Mais ce côté aussi autiste me freine dans les relations un peu humaines, en fin de compte, où il faut que je prenne le temps de savoir écouter les gens. Pour donner une image à tout ça, c'est je manque peut-être un peu d'empathie, dans le sens où quand on vient me voir, je vais avoir ce côté très mécanique où je vais trouver une solution. Et avec l'expérience, je me suis aperçu que les gens, ils attendent, quand ils viennent avec leurs problèmes, ils attendent pas forcément qu'on leur trouve une solution. Ils veulent simplement des fois juste être écoutés. Et des fois, j'aborde une problématique humaine de façon peut-être un peu trop mécanique, en disant, mais tiens, si tu as un problème, je vais t'aider à trouver la solution. Alors des fois, il faut pas simplement trouver une solution, mais plutôt accepter le problème et simplement écouter.
Oui, parce que souvent, les personnes, ils ont déjà la solution.
Exactement.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ta boîte ?
Quelque chose que je déteste faire, un vrai échec en interne dans la société, c'est quand on doit se séparer de quelqu'un. Bien souvent, l'image collective, surtout avec l'épisode des Gilets jaunes, où on voit le patron de façon très négative, qui licencie ses salariés, faut pas oublier que quand on arrive à un licenciement ou à une rupture de contrat, c'est bien souvent un échec, à la fois pour le salarié, mais surtout pour l'entreprise et le chef d'entreprise. Parce que une rupture de contrat, ça nous coûte de l'argent, c'est quelqu'un avec qui on a passé du temps à former et qui va pas aider à faire grandir l'entreprise. Donc quelque chose que je déteste faire, c'est de me séparer d'un collaborateur où j'ai pas réussi à rendre performant un collaborateur ou pas réussi à identifier qu'il n'était pas fait pour l'entreprise.
Comme a dit Rémi dans Despopia, ceux qui aiment renvoyer les gens, faut pas travailler avec eux. Enfin, c'est à l'encontre du côté humain, quoi.
C'est à l'encontre du côté humain et c'est à l'encontre de l'entreprise, parce que une fois de plus, licencier quelqu'un qu'on a déjà dans son équipe, ça veut dire qu'on a forcément perdu de l'argent, parce que on a perdu du temps à former quelqu'un. Il n'y a personne qui est opérationnel le jour de son arrivée, ça n'existe pas. Il ne faut pas se mentir, il y a des périodes d'adaptation qui sont plus ou moins longues. Alors ça peut être quelques jours, comme peut-être pour certains plus d'un mois, selon les postes et selon les missions. Donc licencier quelqu'un, c'est forcément qu'on perd de l'argent quelque part. Donc c'est forcément aussi négatif pour l'entreprise.
Oui, après, il faut rechercher quelqu'un, donc ça coûte encore plus cher. C'est du temps qui s'écoule, du temps perdu, des contrats en moins qui sont signés.
Exactement.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager ?
Une des premières anecdotes, c'est pas forcément honteuse ou marrante, mais qui font partie de l'histoire de Trouver mon architecte. Faut pas oublier que Trouver mon architecte, c'est une vraie start-up. C'est une start-up qui a démarré dans mon salon. Donc les premières personnes qui sont venues me rejoindre dans l'aventure, elle travaillait dans mon salon. Puis ensuite, très vite, on a maintenant des locaux de plus de 300 mètres carrés. Et en arrivant dans mes salons, forcément, c'était chez moi. Et ils avaient les clés de chez moi pour rentrer le matin. Et il y a un soir où j'avais dû travailler trop tard, ou peut-être une nuit blanche, et j'avais pas réussi à me réveiller le matin. Et c'est mes salariés qui m'ont réveillé le matin en rentrant chez moi, finalement. Donc oui, ça, c'est pas une histoire honteuse, c'est plutôt une histoire marrante, mais qui font partie de l'histoire de cette start-up.
Donc ça a vraiment commencé à ton salon, t'as mis les bureaux
Exactement, on a encore les photos où on avait les bureaux dans le salon. Alors au début, on a commencé, on était 2, 3, 4, et puis après on est très vite arrivé à des équipes de 10, 15, où là on a dû trouver une autre structure. Mais oui, c'est vraiment un peu à l'image d'une start-up comme Apple qui commence dans un garage. Trouver mon architecte, ça a commencé dans un salon.
Et au bout de combien de temps tu t'es dit, faudrait peut-être qu'on change ?
Alors j'avais déjà prévu plus ou moins cette organisation en achetant l'appartement dans lequel, en me disant, tiens, si jamais la société ne fonctionne pas, j'aurais quelque chose pour rebondir, j'aurais cet appartement. Et donc du coup c'était un duplex sur deux niveaux. Mais oui, on est resté dans ce salon à peu près un peu moins d'un an avant d'arriver à trouver ces locaux.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ?
Je vais en donner plusieurs. Alors évidemment il y en a un qui est très important, c'est soit je perds, soit j'apprends pour continuer à avancer. Le deuxième conseil qu'on m'a donné, c'est d'un point de vue financier, un chef d'entreprise quand j'étais salarié qui m'a dit « Antoine, ton salaire, c'est juste pour le fun. Pense pas à mettre de côté avec ton salaire, bâtis ta fortune ou mets de l'argent de côté avec de l'investissement immobilier ou avec les sociétés que tu montes. Et ton salaire chaque mois, c'est pour profiter de la vie, elle est courte. Et c'est ce que je mets en place. » C'est-à-dire que l'argent que je gagne d'un point de vue salaire, bah, je m'en sers pour me faire plaisir. Et l'argent que je mets de côté, c'est lié à mes investissements immobiliers ou aux sociétés que je monte. Et troisième conseil très important, c'est qu'il y a toujours une solution. Il faut toujours le penser, c'est qu'il y a toujours une solution. Par contre, il faut être prêt à faire les sacrifices ou à avoir l'énergie pour trouver cette solution ou la mettre en place.
D'accord. Donc c'est tout ce que tu as appliqué quotidiennement ?
Voilà, exactement. Et c'est ce que je continue à appliquer. Quand des fois, on peut avoir des périodes un peu noires pour réussir à remonter, redevenir positif.
L'enregistrement est fini. Je pense avoir posé toutes les questions que j'avais en tête. Donc merci Antoine d'avoir participé à mon podcast.
Merci à toi de m'avoir interviewé.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.